Aimer jusqu'au bout. Il s'agit de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous savons jusqu'où cet amour a conduit notre Dieu. À genoux, le jeudi saint, devant ses disciples, il leur lave les pieds. Oui, Dieu lave les pieds de ses disciples. Le lendemain, vendredi saint, Jésus meurt sur la croix. Dieu meurt sur la croix. Un soldat transperça son côté et il coula du sang et de l'eau. Cette blessure finale dans les côtés du Christ reste, à cause de Saint Jean qui nous la raconte, le symbole insurpassable de l'amour de Dieu pour nous. Elle donnera naissance à toute la symbolique du cœur du Christ, depuis le haut Moyen Âge jusqu'à la ferveur contemporaine envers le cœur du Christ, en passant par le Sacre-Cœur des Paray-Lémoniales, en passant aussi par le Christ miséricordieux de Wagiewniki près de Cracovie et Sainte Sœur Faustine. Pour nous aujourd'hui, le cœur du Christ peut être un puissant révélateur de la vraie nature de notre foi. Nous ne cherchons pas désespérément à nous hisser jusqu'à la divinité, comme le firent les hommes religieux de tous les temps. Le chrétien, tout à l'inverse, accueille humblement l'incroyable descente des dieux au plus profond de l'histoire des hommes. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme et qui s'est abaissé jusqu'à notre mort. Nous croyons en un Dieu qui n'a pas voulu nous éblouir par sa sagesse infinie, mais qui est venu nous envelopper de son amour. Au cœur de Jésus, nous pouvons joindre l'image du Père de l'enfant prodigue. Paradoxalement, c'est lorsque nous croyons à l'amour de Dieu que nous sommes au plus près de sa vérité. Chemin de pauvreté, d'humilité, de service, de partage avec les pauvres. La foi chrétienne, c'est Dieu qui veut saisir toute notre vie pour la rendre semblable à lui. Et nous savons qu'il n'a pas d'autre identité que l'amour. Et nous savons qu'il est l'amour miséricordieux. Expérience humaine de l'amour. L'homme aime, et c'est ce qui le distingue de tous les autres êtres vivants. Il aime où il est, qu'il le veuille ou non. Dans ce monde, seul l'homme aime, car penser à leur manière, les animaux et les ordinateurs le font aussi bien, voire mieux que lui, mais on ne peut affirmer qu'ils aiment. L'amour serait, dès l'origine, présent au fond du cœur de tout homme. Il se situerait bien avant la pensée organisée, et l'on pourrait ainsi pasticher la phrase de Descartes en disant « j'aime, donc je suis ». L'amour est un don. Comment notre existence a-t-elle commencé? Enfant, nous avons reçu de nos parents les dons de notre vie. C'est à partir d'eux que nous avons existé, que nous avons pu vivre, nous réaliser et aimer à notre tour. Cette existence reçue a été un don absolument gratuit que nous n'avions pas mérité et pour cause que nous n'avons jamais pu rendre à nos parents qui nous l'avaient offert. Tout au plus avons-nous pu ou pourrons-nous transmettre ce don gratuit à notre tour à nos enfants, à leur tour tout à fait indépendamment de nous et à leur seule initiative, ils pourront les transmettre à leurs propres enfants, nos petits-enfants. Nantis de ce premier don de notre existence, nous aurions été bien incapables de survivre si nos parents ne nous avaient pas pris en charge dans des gestes d'amour tous les jours renouvelés, allaitement, habillement, soins quotidiens. Gestes d'amour tout à fait gratuits, encore dans les premiers temps, sans aucune contrepartie de la part des bébés que nous étions. Baignés dans cette ambiance aimante, c'est très rapidement que nous avons fait l'expérience du besoin d'être aimés. Recherche d'un amour considéré souvent comme un dû avec des exigences d'exclusivité. Ce besoin viscéral, lorsque parfois il n'est pas satisfait à la mesure des impératifs personnels, conscients ou non, peut laisser un goût amer de mal aimer, avec pour certains des blessures traumatisantes. Il s'ensuit une position inconfortable pour les parents qui perçoivent un décalage manifeste d'interprétation face à une situation qu'ils ont des difficultés à comprendre. L'amour est un don. S'il me manque l'amour, je ne suis rien, nous dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens 13. L'amour est constitutif de l'individu qui est à sa recherche tout au long de sa vie. L'interrogation, m'aime-t-on, est une question cruciale que chacun de nous se pose à tous les âges de sa vie. La quête incessante d'une réponse positive est l'objet de beaucoup de souffrances, voire de désespérances. Les réponses attendues n'ont rien à voir avec la rationalité, mais doivent produire un écho au plus profond de nous-mêmes. L'amour n'a pas de limite. Il est capable de provoquer bien des dépassements, de produire bien des renoncements. Combien de mères n'ont jamais abandonné leurs fils malgré les crimes dont ils étaient accusés? Combien d'épouses restent par amour et au-delà de toute logique auprès de mari qui les délaisse ou les bafoue? Combien de bénévoles se sacrifient pour soulager les misères des autres alors qu'ils n'ont rien à en attendre en retour? Et pour chacun de nous, ne sommes-nous pas surpris parfois par ces élans de cœur dont nous ne savons d'où ils viennent et encore plus interrogatifs de voir jusqu'où ils sont capables de nous mener? Malheureusement, la haine, qui est le triste corollaire de l'amour, est capable de provoquer les mêmes dépassements chez les individus. Certains, avec la même force, seront capables de rejeter les autres, de les jalouser, de les torturer moralement ou physiquement, parfois jusqu'à la mort. L'amour recherche d'un manque. Il peut arriver que nous recherchions chez ceux que nous aimons quelque chose que nous n'avons pas eu et qui nous manque. Ainsi, des parents qui disent aimer leurs enfants bâtissent parfois des grands projets pour eux. Mais en fait, n'est-ce pas pour reporter sur leur progéniture ce qu'ils n'ont pu accomplir par eux-mêmes, en quelque sorte trouver en eux ce qui leur a manqué? Il est souvent difficile à un adulte de se retirer, d'abandonner une partie de son pouvoir pour laisser plus de place aux adolescents afin de ne pas les empêcher d'exister par eux-mêmes. De même, lorsqu'une attirance se fait jour entre deux êtres, une passion s'enflamme, car chacun découvre chez l'autre certaines richesses différentes de celles qu'il possède. Dans cette première phase, de découverte en découverte, se profile une apparence d'effusion par laquelle les deux ne feraient plus qu'un, mais complet, cette fois. Or, toute fusion se révèle bien sûr impossible. Survient alors le déclin de la lune de miel et la déception d'un rêve interrompu. Du complément qui nous a illusoirement comblé pendant un certain temps, nous en arrivons à une lassitude. Un manque nouveau apparaît et l'on parle de tiédissement avec la crainte d'un échec pour cette union. Un amour plus vrai. Le salut de ces couples déçus ne peut venir que d'une grande découverte. Il est temps pour eux de découvrir que l'amour n'a de valeur que si nous acceptons d'apporter gratuitement à l'autre quelque chose pour lui-même et non pour combler notre propre désir. Apporter gratuitement, c'est-à-dire sans exiger un retour. Cette mission est impossible parce que, comme le dit les psychologues, nous sommes ainsi faits que tout acte humain a besoin pour exister d'une motivation et d'une récompense. Pour tout acte purement humain, c'est certain, mais le choix de la gratuité n'est-il pas le chemin à emprunter, chemin semé d'escarpements et d'embûches, certes, mais seul passage pour aller avec l'aide du Seigneur vers un amour plus calme et plus serein? Cette expérience humaine de l'amour ne peut-elle nous laisser entrevoir une image de ce que peut être l'amour divin dans sa gratuité, sans exigence aucune des contreparties et sans limitation de quelque sorte? Quant à la réponse à notre même ton, ce n'est que lorsque nous saurons la certitude de la réalité et de la profondeur de cet amour divin à notre égard que nous en sortirons apaisés. La religion du cœur. Depuis le commencement, au premier livre de la parole, où l'on entend l'appel déchirant du Seigneur qui se met à la recherche de l'homme, Adam, où es-tu? Livre de Genèse 3-9, jusqu'au dernier chapitre de l'ultime révélation, où il est écrit par l'auteur à la fin, viens Seigneur Jésus, on peut relever une histoire du développement de la religion du cœur. Cette histoire parallèle à la religion de la loi et qui culmine en Jean chapitre 19 semble s'effacer dans les siècles suivants. En fait, elle s'enracine dans la piété chrétienne grâce notamment aux exégètes du Cantique des Cantiques. Puis elle se laisse étouffer par la marée scolastique jusqu'au moment où la docilité d'une religieuse visitandine, Sainte Marguerite Marie, rouvrira la source perdue et invitera tous les chrétiens à se retrouver au calvaire à l'heure du coup de lance. C'est la partie scripturaire de cette histoire que je voudrais retracer brièvement ici. Vocable. Il y a dans la parole, tout le monde le sait, des contes et des chroniques. Il y a aussi des récits et des discours que l'on a tenu à conserver pour l'édification des générations futures. Ces divers textes sont faits de mots, des silences aussi parfois, des mots plus souvent concrets que savants, des mots venus de l'expérience humaine, comme fils, roi, pays, peuple, ville, maison. Les traducteurs aidés par les informaticiens ont pu compter et comparer les emplois de ce mot selon les auteurs, les genres littéraires ou les époques. Les mots que j'ai cités ci-dessus appartiennent à l'Ancien Testament et y sont les plus fréquemment employés. Dans le Nouveau Testament, on trouverait beaucoup plus de verbes comme dire, venir, croire, voir. Le mot qui nous intéresse ici, cœur, et ses équivalents est typique de la littérature prophétique qu'un lecteur assidu de la parole de Dieu n'aura pas de mal à situer en face de la littérature légaliste, c'est-à-dire en réaction contre cette dernière. À ce sujet, on peut faire remarquer que c'est un livre prophétique, le Deutéronome, qui clôt la Torah, la loi, et que c'est l'évangile de Jean, le plus prophétique de quatre, qui clôt les récits sur la vie de Jésus. Au moment où s'éteint le temps des prophètes, lors de la déportation à Babylone, la méditation des psaumes sur les rives des fleuves de cette même Babylone, psaume 137, et l'on peut joindre au psaume le Cantique des Cantiques, maintient vivant les acquis du Deutéronome, Osée et Jérémie, les grandes voies de la religion du cœur. Le Deutéronome. Quand on découvre le Deutéronome à Jérusalem vers 621 avant Jésus-Christ, c'est une révélation stupéfiante pour le roi Josias et son entourage. Aussitôt, célébrations et réjouissances se suivent. Renouvellement solennel de l'Alliance, cérémonie de l'expiation, destruction des autels païens, etc. Si bien que l'oraison funèbre du pieux roi reprendra simplement le terme de l'Alliance. Il n'y avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Deuxième livre de Rois 23-25. Qu'est-ce donc que la lecture du livre retrouvé avait apporté de si nouveau, de si notable que toute la tradition juive est tenue à le garder dans l'obligation bicotidienne de réciter le célèbre schéma, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Deutéronome 6-4. Rien d'autre sinon une grille pour relire d'un coup d'œil, d'un coup de cœur, toute la Torah, toute la loi. Voir Évangile Matthieu 22-34-40. Osée et Jérémie. Un siècle environ après la mort du roi Josias, Osée va se préoccuper de sauver sa réforme spirituelle. Il le fait à l'aide d'un symbolique gestué, utilisé à son tour par Jérémie. Osée chapitre 1 verset 2 et chapitre 2 verset 16. Dieu aime son peuple comme un fiancé, sa fiancée. On trouve aussi dans le livre d'Osée 10:1, la parabole de la vigne du bien-aimé, développée ensuite par Isaïe, chapitre 5, verset 1. Chez ce dernier, on parle d'un cantique, chant d'amour, d'autant plus poignant que le bien-aimé est trahi. Jean, dans son évangile, 15:1-8, reprend le même thème. Jérémie, contemporain de la ruine du royaume de Juda, est le dernier représentant significatif de cette religion du cœur. Ses dialogues avec son Seigneur en témoignent. S'il souffre des malheurs du peuple choisi, chapitre 19 de livre de Jérémie, versets 7 à 9, il se réjouit de l'avenir pressenti, annoncé, attendu, chapitre 31, versets 31 à 33, et chapitre 32, verset 39. Si une certaine tradition a fait de Jérémie un auteur des Jérémiades, lu au cœur durant la Semaine Sainte, sous les titres des Lamentations, il reste d'abord un témoin de l'espérance joyeuse en la miséricorde divine jusqu'en ses lamentations, chapitre 5, verset 21. En cela aussi, il continue l'œuvre d'Osée, livre d'Osée 14, 5. Richesse du thème. Tout ce qui précède souligne la richesse thématique des relations cordiales dans la parole de Dieu, alors même que la fréquence du terme lui-même de cœur est faible. Mais ce n'est pas la multiplicité des occurrences qui fait ici, et souvent ailleurs tout autant, la richesse de ce thème. Ce sont les harmoniques multipliées et les variations au sens musical. C'est surtout la dernière image de Jésus laissée aux disciples par Jean au pied de la croix. Il est temps d'en venir à cette scène pour ne jamais, jamais l'oublier. Jean 19, 34. Rappelons-nous ce qui précède les Golgotha. Le dernier repas avec les 12 a eu lieu la veille et les souvenirs des dernières recommandations qui suivirent le chant n'est point encore effacé de la mémoire de ceux qui furent les convives de Jésus. Ces paroles nous introduisent non pas tant à la contemplation du côté ouvert qu'à la réactivation de tout ce qui a précédé et que synthétise cette image, cette vision majeure. Ce qui, dans l'évangile de Jean, a précédé, c'est d'abord l'entretien avec Nicodème et la révélation faite alors de l'amour infini du Père. Évangile de Jean 3, 16 à 17. Puis le dialogue avec la femme de Samarie et l'annonce de l'effusion de l'Esprit. Enfin, la promesse de l'eau vive. Chapitre 7, verset 38. Pour ne pas oublier ce qui a suivi, gardons en mémoire le bref dialogue des retrouvailles de Jésus avec Marie-Madeleine au matin de Pâques. Maria, Rabuni, car il s'agit bien de la même Marie qui a vu les coups des lances et du même cri de foi dans son Rabuni. Ils verront celui que l'on a transpercé. La référence évidente à l'épisode du serpent de bronze dans les déserts, livre des Nombres 21-4, durant l'entretien avec Nicodème, se retrouve ici, même si l'auteur de l'Évangile a tenu à citer textuellement le prophète Zacharie, livre de Zacharie 12-10. Toutefois, cette grille de lecture risque, je crois, de masquer les projets de Jean, car en tout ce passage, il ne s'agit pas pour lui d'évoquer, comme il l'aura fait une fois ou l'autre auparavant, un souvenir des témoins oculaires, sensibles aux derniers gestes, aux dernières paroles qui ont accompagné la mort du bien-aimé. Il s'agit de rappeler aux auditeurs de l'Évangile une vérité essentielle, la nécessité pour être sauvé de la foi en Christ livré pour nous. Chez Jean, en effet, voir le Christ est équivalent à croire en lui, reconnaître sa véritable personnalité de Fils de Dieu. Sinon, notre regard croisera le Fils de l'artisan de Nazareth, un point c'est tout. Ils verront. Peut donc se traduire ainsi. Ils reconnaîtront que celui qui a été transpercé avait été envoyé par le Père. Ce n'est donc pas sur le cœur de Jésus que se porte l'attention, mais sur le regard du croyant appelé à proclamer comme Thomas, évangile de Jean 20, 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Celui qui a vu cette scène est d'abord celui qui a cru. Une focalisation excessive sur le cœur, appelé le Sacré-Cœur de Jésus, depuis les révélations de Sainte Marguerite Marie à Parlémonial, risque de fourvoyer celui qui est invité expressément par Jean à faire un acte de foi en l'homme-Dieu. Preuve de cette mise au point, ce n'est pas cœur attesté par ailleurs cette fois en Jean et 22 fois en Luc qui est employé ici, mais côté. employé seulement dans ce passage. Quant à Thomas, invité un peu plus loin par les ressuscités à entrer, il est bien dit qu'il voit et que cela suffit pour que sa foi éclate. Reste que notre regard ne peut plus désormais ignorer les révélations de la sainte visitandine de Parelmonial. L'eau et le sang qui s'écoulent de la plaie aux côtés sont communiqués aux voyants, croyants, en signe de salut pour le monde. Osons donc franchir un seuil invité par Jésus lui-même et entrons toujours plus profondément dans les côtés ouverts du crucifié pour y lire avec une confiance inébranlable l'amour infini de notre Dieu et Seigneur. Le Sacré-Cœur, avec Sainte Catherine de Sienne, le cœur rénové par le cœur christique, elle s'interroge sur les secrets du cœur brisé afin que vous voyez que je vous aimais plus que ne le pouvait montrer la souffrance finie, celle de la passion. Voici que se découvre cet amour infini, feu de la divine charité, qui opère dans l'âme par le saint baptême de l'eau reçue en vertu du sang, ou par celui du sang procuré par le martyr, l'extrême désir, ou en figure dans l'absolution. L'élan ainsi initié par le génie féminin, dont cette dévotion reste l'apanage, même si le rôle d'acteurs masculins comme Jean Hude ou Claude la Colombière s'avérera décisif, se déploie à l'époque moderne, mais avec un singulier changement de régime. La réforme protestante ayant en effet brisé la cohésion religieuse et sociale de l'Europe, adhérer à une église est désormais un acte public et la manifestation publique d'une dévotion qu'est la liturgie devient capitale pour en assurer la diffusion dans le peuple chrétien. Jean Hude l'aura compris dès 1672. Marguerite Marie, mieux encore, qui en 1675 va couler cette dévotion dans les mots et les catégories politiques de son temps. C'est en souverain, en effet, que Jésus se présente à elle, ayant sur toute chose un souverain domaine. Or, contre la sainteté inflexible de ce roi, le peuple s'est révolté pour l'accabler de mépris et d'ingratitude. La justice requiert propre et implacable châtiment, mais la menace peut en être conjurée par la révélation du Sacré-Cœur, second médiateur entre Dieu et les hommes, qui, produisant des chefs les effets de la rédemption, est le dernier effort de la miséricorde divine. Nous sommes au bord du précipice. La paisible bourgade de Paris est sise en effet dans une province où prospèrent les Huguenots et qui narguent l'Eucharistie avec insolence. Le peuple paroissial se livre sans retenue au désordre du carnaval et il n'y a rien à attendre des couvents qui brillent par une tiédeur exemplaire. On reconnaît là les préoccupations de la réforme catholique qui, en France, veut s'attaquer à la médiocrité générale. De ces offenses, les souverains exigent réparation d'honneur et amende honorable, procédure juridique de jadis où les coupables se rétractent publiquement, aveu infamant que le prince offensé accepte en lieu et place de châtiment. Aussi, Marguerite Marie est-elle appelée comme victime à donner satisfaction, suppléant ainsi les victimes qui devraient être sacrifiées à l'intransigeante justice divine. L'ordre du monde bafoué par les pécheurs est donc rétabli, un nouveau règne, celui du Sacré-Cœur, peut triomphalement s'imposer. Ces vocabulaires juridiques et politiques déterminent les rapports spirituels entre le Christ, maître et époux, elle-même, épouse et servante, ou les autres hommes, les sujets. Ainsi lié à des institutions et une symbolique sur le déclin, ce langage devient rapidement anachronique. Aussi, le XVIIIe siècle, il lira à tort les témoignages d'une affectivité débridée, le cœur désignant non plus le siège de la volonté, mais l'effusion du sentiment et le plaisir, le délectable, en lieu et place de la volonté souveraine. Par ailleurs, Parelmonial ne renonce pas au projet d'une société chrétienne où tous les pouvoirs seraient assujettis à l'autorité spirituelle. Cette ambition d'une hiérocratie planétaire réalisée dans le règne social du Christ que prônera le père Ramière dans la réforme qu'il donnera à l'apostolat de la prière, puis le père Matteo, apôtre de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, enterra la conscience catholique. Nostalgie tenace d'un ordre du monde révolu, teinté d'apocalyptisme et opposé à la modernité, d'ailleurs dénoncé par Pie IX, autant que mirage d'un ordre mondial régénéré selon les vœux de Léon XIII, Benoît XV et Pie XI. Il faudra attendre Faustine Kowalska, qui dès 1934, à partir de la Pologne, propage les cultes de la miséricorde divine pour dégager la dévotion au cœur transpercé de l'hypothèque politique et lui rendre sans ambiguïté sa fécondité proprement spirituelle.